Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur votre radio locale. Une émission aujourd'hui d'hommage à Jean-François Bazin qui nous a quittés le 17 avril dernier à l'âge de 77 ans. Jean-François Bazin, journaliste, historien, essayiste, romancier, grand connaisseur de l'histoire du vin de Bourgogne et aussi homme politique puisqu'il fut président du conseil régional de Bourgogne de 93 à 98. Jean-François Bazin est né à Dijon le 26 juillet 1942. Docteur en droit, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Dès 1966, il est journaliste au journal Les Dépêches. Il fut de 1975 à 2003 le rédacteur en chef de la Lettre de Bourgogne et collaborait régulièrement à des publications nationales mentionnant Les Échos, Le Nouvel Économiste ou encore Le Spectacle du Monde, sans compter ses innombrables participations à des émissions de radio. Alors, aux côtés d'une œuvre littéraire riche de plus d'une trentaine d'ouvrages, notamment sur l'histoire du vin, mais aussi des romans. Jean-François Bazin a eu également un très beau parcours politique. Il siégea durant 37 ans au conseil municipal de Dijon. Rappelons qu'il fut le premier adjoint au maire de Dijon, Robert Poujade, de 1995 à 2001. Il a siégé durant 26 ans au conseil régional de Bourgogne, dont il devient le président de 1993 à 1998. Jean-François Bazin s'est retiré de la vie politique en 2001 après avoir été battu aux élections municipales de Dijon par François Rebsamen. Alors aujourd'hui, dans Wagon Livre, puisque nous avions eu le plaisir de le recevoir à plusieurs reprises devant notre micro, il était impossible de ne pas lui rendre hommage. Nous rediffuserons quelques extraits d'entretien avec Jean-François Bazin, mais nous aurons aussi par téléphone les témoignages de deux hommes qui l'ont côtoyé, bien connu, qui appréciaient à la fois l'homme et son œuvre littéraire. Tout d'abord Jean-Robert Pitte, professeur de géographie et ancien président de l'Université Paris-Sorbonne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Jean-Robert Pitte qui a signé aux éditions Plon en 2015 un dictionnaire amoureux de la Bourgogne, dans lequel d'ailleurs il a consacré un article complet à Jean-François Bazin. Et puis nous aurons aussi l'occasion de recueillir le témoignage et l'hommage de Claude Chapuis, bourguignon, écrivain, vigneron, professeur à BSB Dijon où il enseigne la viticulture et la communication interculturelle. Claude Chapuis qui admire Jean-François Bazin et qui aura l'occasion de retracer à la fois son parcours et surtout de mettre en valeur son œuvre littéraire. Sans tarder, je vous propose de réentendre Jean-François Bazin. Il s'agit d'un entretien enregistré lors de la 10e édition de Livre en Vigne entre Beaune et Dijon, au château du Clos de Vougeot, et c'était l'opportunité toute trouvée de demander à Jean-François Bazin de nous expliquer l'histoire du château du Clos de Vougeot. Jean-François Bazin.
C'est à la fois un vignoble, un vin et un château vigneron. C'est aussi beaucoup d'autres choses puisque c'est la plus belle table d'hôte de France. Chaque samedi soir, quelques 500 convives célèbrent à la fois l'amitié bourguignonne et le vin de notre région.
L'histoire du château du Clos de Vougeot est étroitement liée à celle de l'abbaye de Cîteaux qui est apparue en 1098, extrême fin du 11e siècle.
Oui. Ce n'est pas un ou deux ans près, mais dès 1100, pour dire les choses simplement, on a planté ici de la vigne, probablement parce que c'est ce qui restait disponible. Cluny était déjà là, un certain nombre d'autres monastères étaient déjà présents. Donc probablement, sitôt, on lui a donné ce qui restait, mais c'était tout de même pas mal. Et la démarche de sitôt, ça a été un peu une démarche bordelaise, c'est-à-dire de faire un clos de 50 hectares où il y avait plusieurs climats. Le climat n'est pas forcément synonyme d'appellation en Bourgogne, même si le climat est très important. Il y avait une quinzaine de climats différents au sein des 50 hectares du Clos de Vougeot. Et les moines de Cîteaux ont su patiemment en faire quelque chose de grand, en sélectionnant les cépages, en apprenant à vinifier. Et finalement, un abbé bien inspiré y a établi non seulement une cuverie, qui existait d'ailleurs avant lui, mais il a établi un petit château symbole de la Renaissance bourguignonne qui permet d'accueillir tous nos visiteurs dans un lieu qui appartient au fond à toute la région.
Alors, influence cistercienne durant 680 ans. Et puis, en 1789, ce château est déclaré bien national. Il a même été vendu en bloc en 1791.
Alors, ça a été par saut de puce, parce que il y a eu d'abord une vente qui a été quelque peu annulée, il y en a eu ensuite une autre, et c'était surtout des aventuriers parisiens, des marchands de biens qui achetaient ça. Hein. C'était pas du tout le peuple bourguignon qui devenait propriétaire du Clos Vougeot à la place des moines. Non, en réalité, c'était des financiers parisiens et qui d'ailleurs se sont disputés les uns les autres. Et finalement, à la fin, l'un a pris le pouvoir. C'était d'ailleurs un homme qui a fait parler de lui, puisque c'était le financier privé de Napoléon. Et c'est lui qui payait cet ouvrard, qui s'appelait Ouvrard, qui payait les campagnes militaires de Napoléon. Ou ne les payait pas d'ailleurs. Et son fils est devenu le propriétaire. Et le clos est donc resté en monopole, c'est-à-dire non séparé, jusqu'à la fin du XIXe siècle, où à ce moment-là, ses enfants ont vendu. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a eu la scission de nombreuses parcelles qui ont appartenu petit à petit à des propriétaires bourguignons.
Alors avançons un peu dans le temps. En 1889, Léonce Boquet s'adjuge donc une quinzaine d'hectares et il devient propriétaire du château. Alors, Léonce Boquet, il est négociant en vin à Savigny-les-Baunes et on a dit qu'il s'était ruiné en restaurant le château du Clos de Vougeot.
Oui, peut-être s'est-il ruiné, mais et il est vrai qu'il a consacré beaucoup de sa fortune pour restaurer cette bâtisse qui était en ruine et qui méritait bien d'avoir des aménagements de qualité. Alors, est-ce qu'il s'est vraiment ruiné ? Peut-être pas, puisqu'il avait quand même beaucoup de vignes, beaucoup de propriétés, et le château du Clos de Vougeot n'en était qu'une. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que tout le décor que l'on voit dans ce salon du livre au premier étage, c'est un décor qui lui est dû, qui est un décor 1900.
Alors, des gens très célèbres, ils sont venus, la comédienne Sarah Bernhardt, par exemple.
Sarah Bernhardt, d'autres encore, des écrivains, des peintres, des hommes d'église d'ailleurs, hein, puisqu'il y a une chapelle, ce qu'on ne sait pas toujours, au sein du Clos Vougeot, il y a une chapelle, à vrai dire, qui n'est plus guère ouverte, mais ça a été béni par l'évêque de Dijon qui était venu spécialement pour ça.
Alors Léonce Boquet est mort en 1913. Il est inhumé devant le château.
Il a obtenu, enfin du moins sa veuve, mais je crois que c'était même lui qui l'avait souhaité. Et en signe de reconnaissance, on a fait cette exception pour lui, puisqu'en principe on ne peut pas être enterré chez soi. Mais dans le cas présent, il avait tellement fait pour la Bourgogne qu'on pouvait l'autoriser à reposer face au château.
À l'instant, c'était Jean-François Bazin lors d'un entretien enregistré fin septembre 2017 lors de la 10e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot. On marque, si vous le voulez bien, une première pause musicale et puis on se retrouve bien sûr juste après pour cette émission hommage à Jean-François Bazin qui nous a quittés le 17 avril dernier à Dijon à l'âge de 77 ans. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Jean-Robert Pitte, bonjour, vous êtes en bonjour. Ligne avec nous. Bonjour Jean-Robert Pitte.
Oui.
Je vous ai contacté pour évoquer Jean-François Bazin, qui nous a quittés le 17 avril dernier. Un Jean-François Bazin qui figurait dans votre dictionnaire amoureux de la Bourgogne.
Oui, j'avais trouvé, bon, j'ai, dans les dictionnaires amoureux ont cette particularité que l'auteur fait ce qu'il veut, choisit les rubriques qu'il veut, commet les oublis qu'il veut et met en valeur les personnalités ou les lieux, les monuments, etc. qu'il souhaite. Donc, j'ai évoqué beaucoup de personnalités de l'histoire de la Bourgogne ou de l'actualité, mais il m'a semblé qu'il était important de consacrer une rubrique à Jean-François Bazin, qui lui a consacré réellement toute sa vie à la Bourgogne et qui laisse une œuvre écrite que peu d'auteurs bourguignons laissent. Une œuvre écrite qui est à la fois agréable à lire et de haute érudition pour un certain nombre de ses travaux.
Alors il est évident que Jean-François Bazin a écrit un grand nombre d'ouvrages sur l'histoire du vin de Bourgogne et également des romans. Il y a bien sûr Jean-François Bazin, homme politique. Et d'ailleurs, dans votre article consacré à Jean-François Bazin dans le dictionnaire amoureux de la Bourgogne, vous écrivez « Jean-François Bazin fait partie de ces cabossés de la vie politique ». Que faut-il comprendre ?
Voilà, c'est quelqu'un qui a consacré toute la première partie de sa vie à... bon, il a été journaliste d'abord, mais ensuite il a consacré beaucoup, beaucoup d'années à la vie politique bourguignonne, à la fois comme élu de la ville de Dijon et puis comme président du conseil régional de Bourgogne. Et il a fait l'objet de complots qui l'ont empêché de poursuivre sa carrière, puisqu'il était destiné normalement à devenir maire de Dijon au moment du retrait de Poujade. Et ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'il y a eu une conjonction d'intérêts variés, ce qui fait que c'est un autre qui a été élu à sa place. Et pour le conseil régional, comme vous savez, il y a eu des arrangements électoraux un peu particuliers qui ne sont pas tout à fait à la gloire de ceux qui les ont signés à cette époque. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la Bourgogne a engendré un certain nombre de cabossés de la vie politique. Je pense à Jean-Philippe Lecas, qui a été oublié complètement. Poujade, après son retrait de la mairie de Dijon, donc il ne s'était pas représenté, a vécu un peu dans l'ombre. On ne l'a plus entendu, il n'a plus écrit. Je ne sais pas s'il était amer ou pas, je ne le connaissais pas personnellement. Mais je pense à Périgourois, qui est de l'autre côté de la Bourgogne aussi. C'est une triste fin politique. Je pense à Perben, je pense à Montebourg.
Arnaud Montebourg.
À Montebourg, ça, il y a un certain nombre de gens qui ont eu un rôle important dans la vie politique bourguignonne, qui ont cru que ça pourrait durer longtemps, et puis d'un seul coup, ils passent aux oubliettes. Alors, bon, ça existe un peu partout dans toutes les régions, et dans la vie politique nationale, et dans bien d'autres pays. Hein. Ce n'est pas du tout une spécificité de la Bourgogne. Enfin, en tout cas, je tenais dans ce dictionnaire amoureux à rendre un hommage au travail qu'il a fait pour la Bourgogne, parce que ça a été un élu, alors avec du caractère, donc ce qui ne plaît pas à tout le monde, hein, c'était pas quelqu'un d'insignifiant et qui était d'accord avec tout le monde, donc il exprimait ses points de vue, ce qui est tout à son honneur. On ne peut pas donner des leçons de démocratie à la terre entière et se plaindre des gens qui donnent leur opinion justifiée. Mais après, d'ailleurs, il n'a plus fait de politique après cette malheureuse aventure. Mais il a s'est quand même exprimé au moment, par exemple, de la fusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté, vigoureusement pour dire combien c'était absurde.
Alors il y était et totalement opposé, oui.
Il était opposé, mais comme d'ailleurs d'autres membres de la vie politique bourguignonne n'appartenant pas à la même mouvance politique. Hein, François Rebsamen était très, très, très opposé aussi à cette fusion. Et on voit bien que, permettez-moi de le dire, que ces effets bénéfiques tellement annoncés se font attendre. Voilà.
Et d'ailleurs, dans l'article Jean-François Bazin, dans votre dictionnaire amoureux de la Bourgogne paru aux éditions Plon, vous écrivez « Ne vous faites pas de mauvais sang, Jean-François, tant de décideurs politiques sont surtout des causeurs aux courtes perspectives.
Ben, » Oui, c'est ce que je pense. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui aurait pu être très amer et aigri. Amer, il a dû l'être, j'imagine, hein. Mais aigri, et en fait... il a repris sa plume qu'il avait moins utilisée quand il était en fonction avec des missions importantes à la mairie ou à la région. Et c'est d'abord quelqu'un d'un homme de plume, puisqu'il était journaliste au Bien Public, si je ne m'abuse. Et il a repris sa plume pour écrire beaucoup de livres et de livres très passionnants qui sont des livres qui resteront. Alors les romans, sans doute que certains seront oubliés, mais il y a des livres d'érudition. Je pense à son dictionnaire des vins de Bourgogne qui est un ouvrage tout à fait remarquable avec des choses de première main et beaucoup de documentation accumulée, mais aussi des choses vues et vécues, ce qui donne tout son sel à ce livre, et comme à d'autres livres. S'appuyait aussi beaucoup sur une connaissance intime de tous les acteurs de la vie bourguignonne, en particulier, bien sûr, dans le monde du vin, qui était le sujet qui me passionnait. Quand on habite à rue du Chambertin, il ne peut pas en être autrement.
Et vous, Jean-Robert Pitt, de quelle manière avez-vous rencontré Jean-François Bazin ?
Oh, je l'ai rencontré depuis très très longtemps, quand j'ai commencé à travailler, à écrire sur la Bourgogne. Donc je l'ai rencontré quand il était président du conseil régional, et puis bien des fois dans toutes sortes de manifestations, puisque je fréquente la Bourgogne depuis quand même pas mal de décennies maintenant, et bien entendu je l'ai beaucoup fréquenté depuis qu'existe le salon Livres en Vigne, puisque nous faisons partie des dévots de ce salon et des animateurs aux côtés de Clint Philippe, qui fait un travail admirable. Voilà, Jean-François était un fidèle aussi de ce salon, bien entendu, puis je l'ai fréquenté beaucoup dans le cadre de la confrérie du Tadevin, dont il était un membre éminent, et nous avons vidé un certain nombre de flacons ensemble, donc je suis bien triste que cela soit maintenant du passé.
Alors Jean-François Bazin nous a quittés le 17 avril dernier, ouais. Il était le plus ardent défenseur de la Bourgogne, est-il irremplaçable ?
Ça n'existe pas, personne, vous savez bien, les cimetières sont peuplés de gens irremplaçables, mais ce qui est certain, c'est qu'il laissera une belle trace dans l'histoire de la Bourgogne et dans l'histoire de la littérature bourguignonne et des écrits sur la Bourgogne, parce que quand on écrit sur le vin, c'est rare d'être très objectif, surtout quand on fait partie du milieu du vin. Je ne citerai personne, mais il y a un certain nombre d'ouvrages sur le vin de Bourgogne écrits par des acteurs du monde du vin qui ne sont pas des ouvrages objectifs. Jean-François Bazin connaissait parfaitement le monde du vin, mais il n'était pas acteur de ce monde, il n'est pas acteur direct, il n'était pas producteur, négociant, etc. Et donc sa vision des choses était beaucoup plus sage, beaucoup plus objective et très, avec en même temps de l'esprit critique, hein, et très intéressante.
Donc on peut dire
ce sont des ouvrages qui resteront.
Scripta manent.
Voilà.
Et d'ailleurs, vous expliquez que adolescent, dès l'âge de 13 ans, son père lui donne la clé de la cave. Est-ce que je peux vous demander de revenir sur ce souvenir, s'il vous plaît ?
Oui, c'est lui qui le raconte. Hein. Il dit que quand il a commencé à grandir, son père, lui, dans la maison de Gevrey-Chambertin, qui est une belle maison sur la route des Grands Crus, son père lui a dit « Bon, écoute, maintenant, t'es assez grand, donc je te confie la clé. » Enfin, c'était la clé commune. Enfin, tu auras le droit d'y aller. Voilà où je la mets à la maison, et c'est pour aller chercher les bouteilles que tu veux. Ce qu'il a continué à faire jusqu'à la fin de ses jours, et je trouve ça formidable, parce que c'était aussi un amoureux du vin et du partage du vin. Avec beaucoup de générosité, il en parlait très bien, sans trop d'emphase non plus. Et il avait presque ce côté bordelais quand il parlait du vin, c'est-à-dire que il faut se taire un peu quand on a un grand vin dans son verre. On fait pas des grands discours, même si le vin de Bourgogne est plus fait pour être bu que pour être dégusté. Il savait se taire quand il avait un très grand cru dans son verre, un grand millésime.
En tout cas, Jean-Robert Pitt, merci beaucoup pour votre contribution à cet hommage à Jean-François Bazin.
Merci à vous, on ne l'oubliera pas.
Merci Jean-Robert Pitt.
Voilà, à bientôt.
Émission hommage aujourd'hui à Jean-François Bazin, qui nous a quittés le 17 avril dernier à l'âge de 77 ans. Jean-François Bazin, meilleur connaisseur de l'histoire de la Bourgogne et de ses vins, érudit sans faille en même temps que romancier fort estimable. Alors mentionnons quelques livres de Jean-François Bazin. Il y a eu en 2002 « L'histoire du vin de Bourgogne » aux éditions Jean-Paul Gissereau. En 2003, « Le tout Dijon » paru aux éditions Cléa, véritable bible de la cité des ducs qui recense les rues et les lieux notables de la capitale ducale. En 2010, le Dictionnaire universel du vin de Bourgogne, paru aux presses du Belvédère. En 2013, le vin de Bourgogne, aux éditions d'Uno, avec effectivement une réédition en 2017, augmentée, revue et corrigée, avec notamment une préface d'Aubert de Villaine. En 2015, toujours aux éditions d'Uno, le Crémant de Bourgogne, et les derniers ouvrages que Jean-François Bazin a fait paraître, il y avait un roman chez Calman Lévy, Le Maître de la Lumière, et un essai historique intitulé « Le chanoine Kir, la vie fantasque d'un homme politique en soutane » aux éditions Armand Collin, ouvrage dans lequel Jean-François Bazin s'intéresse au chanoine Kir, élu maire de Dijon en 1945 à l'âge de 69 ans, qui fut aussi député, un des seuls, voire très rares députés qui circulait dans les couloirs de l'Assemblée nationale à Paris en soutane. Je rappelle d'ailleurs que le chanoine Kir est mort en 1968 à l'âge de 92 ans. On se retrouve dans une poignée de minutes, juste après la pause musicale que nous allons vous proposer. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un wagon livre hommage à Jean-François Bazin, qui nous a quittés le 17 avril dernier à l'âge de 77 ans. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Ce sera toujours.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
En cette fin de matinée sur Radio, nous rendons hommage à l'écrivain, journaliste, romancier et ancien président du Conseil régional de Bourgogne, Jean-François Bazin, disparu la semaine dernière à l'âge de 77 ans. Je vous propose de le réentendre dans un entretien que j'avais enregistré lors de la 10e édition de Livre en Vigne. C'était fin septembre 2017 entre Beaune et Dijon au château du Clos de Vougeot. Et j'avais demandé justement à Jean-François Bazin à qui appartenait le château du Clos de Vougeot. Jean-François Bazin.
Eh bien, il y en a quatre. Ce sont quatre familles bourguignonnes, enfin trois familles bourguignonnes et une famille parisienne qui ont, à l'époque, acheté le château du Clos de Vougeot, pas les vignes, hein, le château. Lorsque celui-ci a été vendu, disons dans les années 1920-1930, et ils l'ont fait, c'était M. Camuset, député du coin qui en était propriétaire, ils l'ont fait parce que M. Camuset ne souhaitait pas que la confrérie en devienne propriétaire. Il disait, oui, mais un jour la confrérie va devenir américaine, etc. Oui, oui, enfin, il avait ce genre de sentiment, et donc il a vendu à quatre propriétés, dont trois très connues en Bourgogne, dans le Nuiton, avec charge pour eux, ce qui a été respecté jusqu'à présent, c'est de le mettre au profit de la Bourgogne tout entière. Donc on peut dire que ces personnes sont des personnes qui ont apporté beaucoup à la vie bourguignonne, mais puisqu'ils sont propriétaires d'un château dont elles ne profitent pas.
À l'heure actuelle, le vin du Clos de Vougeot représente 230 000 bouteilles par an.
Ah oui, puisque ça fait 50 hectares, donc c'est une très grande propriété.
Et avec quoi doit-on consommer le vin du Clos de Vougeot? Quelle viande? Que recommandez-vous, Jean-François Bazin?
Oh, bon, je pense que c'est plutôt effectivement une viande. Ça peut être un bon rôti, ça peut être une côte de bœuf, ça peut être du gibier. Bon, on en consomme moins qu'à une certaine époque, mais ça peut être aussi le fromage. Un Clos Vougeot peut très bien honorer un Cîteaux ou encore un Époisses.
Un Époisses. Ou alors dans Lyon, un sous-marin?
Eh bien, pourquoi pas? À soumettre.
Jean-François Bazin, puisque vous êtes un des meilleurs connaisseurs de l'histoire du vin de Bourgogne, j'aimerais que vous nous parliez de cette confrérie des chevaliers du Tastevin et peut-être rappeler ce qu'est un Tastevin. Alors, ça s'écrit Tastevin?
Alors, on ne dit pas Tastevin, on dit Tastevin. Ben, tâter le vin, c'était le goûter. Donc, c'est un vieux mot français. Le Tastevin, c'est la petite tasse en métal qui est fabriquée de façon particulière avec des cupules, avec des... de façon à pouvoir le déguster le vin, et particulièrement le vin rouge. Ce tas de vin, naturellement, a inspiré une confrérie en 1934, et celle-ci est la première de toutes les confréries du monde. Maintenant, il y en a partout, sur les cinq continents, vous avez des confréries qui s'occupent de tout, du fromage, du vin, mais de beaucoup d'autres choses aussi. Et on peut dire que les gens de Nuits-Saint-Georges avait de l'imagination, parce que on s'aperçoit que de 1934 à nos jours, ça s'est pas si mal porté, ce tas de vin.
Alors, vous-même êtes-vous membre de cette confrérie des chevaliers du tas de vin?
Oui, naturellement, depuis très longtemps. Mais étant bourguignon, habitant à 3 km et ayant été journaliste, écrivain, naturellement, la confrérie m'a demandé parfois d'y parler, parfois d'écrire dans sa revue. Enfin, je suis un ami du Tastevin.
En tout cas, à l'heure actuelle, cette confrérie des chevaliers du Tastevin compte plus de 10 000 membres.
Oui, c'est ce qu'on dit.
Aux quatre coins du monde.
Aux quatre coins du monde, elle a réussi une ambassade assez étonnante et extraordinaire, puisqu'elle a abordé maintenant l'Asie, alors qu'elle était plutôt orientée vers les États-Unis, vers l'Amérique. Et l'Asie, c'est un défi très important. D'abord le Japon, Singapour, et puis maintenant la Chine.
Jean-François, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de Chablis. Chablis, bien sûr, un vignoble bien connu dans Lyon, mais connu aux quatre coins du monde. J'aimerais que vous nous parliez de la venue de Jean Cocteau en 1930 à Chablis.
Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Vous savez, il faut se méfier un peu des légendes. Mais on dit que Jean Cocteau aurait composé en une nuit une de ses œuvres les plus célèbres et qu'il l'aurait fait chez Bergeron, qui était le...
L'hôtel de l'Étoile.
L'hôtel de l'Étoile. Bergeron était un chef réputé et Cocteau aurait écrit cette œuvre dans la nuit. Alors, c'est possible. Cocteau travaillait très vite. Ça n'est pas impossible.
Le vin inspire.
Le vin inspire, mais alors est-ce que cette histoire est vraie? Vous savez, il y a beaucoup de légendes. Mais après tout, pourquoi pas?
Alors restons, on change de département. J'aimerais que vous nous rappeliez un peu ce qu'est le cratère de Vix. Le
cratère de Vix, c'est 600 ans avant l'ère chrétienne.
C'est Châtillon-sur-Seine?
Alors oui, il est actuellement à Châtillon-sur-Seine. Il a été découvert au début des années 50 dans un lieu souterrain où il y avait l'inhumation d'une princesse. Donc, c'est pour ça qu'on dit parle de dame de Vix ou de princesse de Vix. Et ça montre simplement la richesse de cette population qui était sur la route de l'étain, puisque l'Antiquité allait chercher en Angleterre, dans les îles anglaises, l'étain dont elle avait besoin, et il passait par là. Et probablement, il y avait ce qu'on appelle un péage maintenant, c'est-à-dire qu'il devait payer au passage. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été fait au sud de l'Italie par des bronziers grecs, et que on ne peut pas dire que le voyage avait dû être simple. Vous imaginez partir du sud de l'Italie, arriver dans le Châtillonnais sur des chemins extrêmement dangereux, et, avec beaucoup de... Bon, c'est tout de même une œuvre extraordinaire. C'est semblable au vase que, selon Hérodote, Crésus, le fameux Crésus, aurait reçu des Lacédémoniens.
Alors, il faut rappeler... concernant le cratère de Vix, 1,64 m de hauteur, 1,27 m de diamètre, 208 kg, et il pouvait contenir 1200 litres.
Alors, est-ce qu'il y en a eu est-ce qu'il n'y en a pas eu ça? Je dois dire que les historiens sont divisés là-dessus, mais effectivement, c'était un cratère, c'est-à-dire un vase qui était destiné à contenir... du vin ou ce qu'on appelait du vin à l'époque, parce que c'était souvent on y mêlait du miel, on y mêlait
de l'eau,
enfin voilà. Donc on ne peut pas parler de vin actuel. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a maintenant 2 ou 3 ans, à Lavaux, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Vix, on a découvert cette fois-ci la tombe d'un prince. Alors, pour l'instant, on n'en parle pas trop parce que cette sépulture est en restauration. Puis on ne veut pas bousculer trop de monde avant qu'on puisse présenter cette œuvre. Mais il y a un second vase de Vix qui a été trouvé à Lavaux, un peu au nord de Châtillon-sur-Seine.
Jean-François Bazin, quels sont vos prochains projets éditoriaux?
Il y en a 4. Il y en a, un roman qui se passe à Saint-Cloud et à Londres et qui est consacré au diamantaire, au travail du diamant, puisque dans le Jura, on taillait le diamant pendant très longtemps. Ensuite, il y a Des moines et des vins, c'est-à-dire un atlas universel de tous les vins monastiques et de toutes les religions et depuis les origines. C'est un gros, gros travail que je fais avec Edward Steeves. Et puis un livre sur les conquêtes artistiques de Monge quand il était en Italie. Le consulat l'avait envoyé chercher les œuvres d'art qui étaient dans les traités que Bonaparte avait imposés à ses ennemis, enfin ceux qu'il avait battus sur le champ de bataille. Vous voyez, ça fait déjà plusieurs livres qui sont en route et un roman aussi. Donc... Tout ça avance bien et occupe mes soirées.
À l'instant, c'était Jean-François Bazin, enregistré fin septembre 2017 lors de la 10e édition de Livres en vigne au château du Clos de Vougeot. Jean-François Bazin a publié un grand nombre de romans. On mentionnera L'Enfant du Puits, paru chez Anne Carrière en 2002 et repris en 2003 chez France Loisirs. Et puis on trouvera ensuite trois romans qui évoquent essentiellement des familles bourguignonnes confrontées à l'évolution du domaine viticole, vinicole. Alors à mentionner Les Raisins Bleus, Le Clos des Monts Luisants et Le Vin de Bonne Espérance. Ces romans sont tous d'ailleurs disponibles en format de poche aux éditions de Boré. Mentionnons Les Compagnons du Grand Flot. Alors Les Compagnons du Grand Flot, là Jean-François Bazin quitte l'univers du vin pour se tourner vers la Nièvre, notamment Clamecy, puisqu'il y est question essentiellement des familles qui étaient occupées par le flottage du bois. Et l'action se situe dans la seconde moitié du 19e siècle, dans les Vaudionnes. Et c'est un très beau roman paru chez Calmann Lévy en 2013. Et puis le dernier roman connu de Jean-François Bazin, c'est Le Maître de la Lumière, paru en 2018. Émission hommage à Jean-François Bazin qui nous a quittés le 17 avril dernier, à l'âge de 77 ans. Nous allons marquer une nouvelle pause musicale et juste après cette pause musicale, nous serons en ligne avec Claude Chapuis pour évoquer Jean-François Bazin. Claude Chapuis, écrivain vigneron qui a très bien connu Jean-François Bazin, qui a travaillé avec lui concernant l'histoire du vignoble bourguignon, et ce sera lui aussi l'occasion de rendre hommage à cette grande figure de la Bourgogne, Jean-François Bazin, le plus ardent défenseur de la Bourgogne. C'est Vagues en Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi, on se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Ok, on s'est pris au sérieux.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Toujours sur votre radio locale jusqu'à midi pour évoquer la mémoire de Jean-François Bazin, l'ancien président du Conseil régional de Bourgogne, qui fut journaliste aux Dépêches dans ses vertes années et qui était le meilleur connaisseur de l'histoire de la Bourgogne et de ses vins, un érudit sans faille en même temps que romancier fort estimable. Il se faisait autant plaisir dans la fiction que dans les nombreux ouvrages sérieux qu'il a consacrés à sa province. Avec nous en ligne en cette fin de matinée, Claude Chapuis. Bonjour Claude Chapuis.
Bonjour.
Claude Chapuis, je vous présente, vous êtes écrivain vigneron, professeur à BSB Dijon, où vous enseignez la viticulture et la communication interculturelle à des étudiants étrangers. Vous publiez régulièrement des chroniques dans la revue Pays de Bourgogne. Vous êtes vous-même, je l'ai dit, écrivain bourguignon, écrivain vigneron et auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur le vin. Un terrain commun avec Jean-François Bazin, à qui nous rendons hommage. Comment l'avez-vous connu ?
C'était à la suite d'un livre que j'avais écrit en 1980, Vigneron en Bourgogne, qui était l'histoire de mon père. Donc Jean-François Bazin était venu à la maison et il avait fait un article sur le livre.
Alors Jean-François Bazin, bien sûr, il y a le parcours politique et il y a surtout, et c'est cela qui va rester, me semble-t-il, un très grand nombre d'ouvrages à l'érudition remarquable sur l'histoire du vin de Bourgogne. Claude Chapuis, vous avez vous-même beaucoup cherché, enquêté sur le vin de Bourgogne, mais j'imagine que pour vous aussi, les travaux de Jean-François Bazin ont été d'honorables sources d'informations.
Ah ben bien sûr, et je dois dire que j'ai assez souvent fait appel à lui pour un renseignement, pour des articles même, que j'ai sollicité pour Pays de Bourgogne, pour des services. Là, il m'a beaucoup aidé, je dois dire.
Alors, on ne va pas mettre de côté l'action politique de Jean-François Bazin.
Non, parce qu'elle restera aussi. Hein. Elle restera aussi parce que c'est un homme qui avait une vision. Je pense à sa vallée de l'image, parce que Niepce, parce que Marais, parce que les frères Lumière, enfin, c'était de Lyon, mais c'est pas loin. Et puis Roger Cuvillier, l'inventeur du Zoom, était des Bourguignons. Donc, il voulait créer tout un grand pôle audiovisuel en Bourgogne. Ça, c'est une chose. Et puis, pour lui, il disait souvent, Bourgogne, c'est un nom qui est connu dans le monde entier. C'est une marque qui est connue dans le monde entier et il faut capitaliser là-dessus. Donc, c'est des actions qui n'ont pas toujours été comprises. Il m'avait même dit un jour qu'il croyait qu'il avait fait une erreur en faisant de la politique. C'est pas tout à fait vrai quand même. Hein. Et je pense que son action restera. Mais c'est sûr que ce qu'il a écrit sur la Bourgogne restera longtemps.
Alors, il est vrai que la ville de Dijon lui doit un grand nombre de réalisations, notamment l'aménagement d'un grand nombre de quartiers.
Bien sûr, oui. Ça, il avait à cœur toute l'architecture de sa ville, le développement de sa ville, oui.
Alors, ce qui est impressionnant, vous, Claude Chapuis, vous l'avez beaucoup plus côtoyé que moi. Moi, j'ai rencontré Jean-François Bazin lors des séances du Club des écrivains de Bourgogne à Dijon. Mais ce qui était époustouflant chez Jean-François Bazin, c'est sa connaissance de l'histoire du vin de Bourgogne, connaissant même les superficies des parcelles. Il était impressionnant de par sa mémoire et de par sa culture.
Ah, absolument, ça. Et puis la production, sa puissance de travail, sa production littéraire est phénoménale. Écrire des livres comme il a fait, livres très complets, très fouillés sur des appellations comme Montrachet, comme Clos Vougeot, comme Chambertin, comme Romanée et Conti, de gros bouquins qui sont vraiment, qui font autorité, qui feront autorité très très longtemps. Son grand bouquin qu'il a fait sur les personnes de la Bourgogne, Dictionnaire universel des vins de Bourgogne, 750 pages, c'est un bottin très documenté sur les personnalités du vin dans notre région. Il rédigeait les commentaires de la section Bourgogne dans le guide Hachette. Et vraiment, il a fait un ouvrage de référence sur le Crémant de Bourgogne. Et puis, un grand classique, c'est Le vin de Bourgogne, où il répertorie tous les villages viticoles en indiquant leur histoire, en indiquant leur production. Ça aussi, c'est un grand classique. Donc, c'est l'auteur de classiques. Et puis, il a écrit sur le vin de Californie, parce qu'il allait de 95 à 99, je pense, il allait à l'université de Stanford pour faire des conférences. Il a écrit un livre sur Paul Masson, une biographie. C'est un Beaunois qui a émigré en Californie. Et le livre a un beau titre, Le Français qui mit l'or de la Californie en bouteille. Il a écrit aussi des romans qui se passe dans la vigne. Alors, L'Enfant du Puits, c'est le problème de la sécheresse dans les villages viticoles, parce que d'ailleurs, c'est un problème qui risque de se poser beaucoup maintenant avec cette période de réchauffement climatique. Il a écrit une trilogie romanesque, Les Raisins Bleus, Le Clos des Monts Luisants et Le Vin de Bonne Espérance. C'est une saga, une histoire de famille de vignerons, de la crise phylloxérique jusqu'à nos jours. Et ce qu'il a écrit sur la Bourgogne, c'est sur le vin de Bourgogne, est étonnant. Mais il n'y a pas que ça.
Alors, c'est vrai qu'il avait quitté un peu le monde de la vigne avec les compagnons du Grand Flot, où là, il revenait dans la seconde moitié du 19e siècle, plutôt dans les Vaudionnes, hein, c'est Clamcy et le flottage du bois. Puis son dernier roman, qui était un hommage au diamantaire du Jura, hein, le maître de la lumière, exactement, en 2018. Et puis son dernier texte aussi, c'était chez Armand Collin, consacré au chanoine Kir.
Et puis, donc, il avait un projet qu'il a terminé. J'espère que ce livre verra le jour. C'est sur les moines et le vin. Et connaissant Jean-François Bazin, on peut être sûr que ça va être un ouvrage très profond. Il y en a un de Desmond Morris sur ce sujet, mais c'est superficiel. C'est un ouvrage de dilettante. Et Jean-François Bazin, c'était tout à fait le contraire d'un dilettante. C'est quelqu'un qui allait au fond des choses. Et puis, alors, il a écrit des romans policiers, l'affaire Joseph K., le 13e testament de Madame Winchester. Il a fait trois biographies de Shannon Keir, mais il a aussi fait une biographie de son oncle, le père missionnaire Étienne Bazin, qui a fondé un village Igloolik en terre de Baffin au Canada. Et puis, un gros pavé aussi, Le Taux Dijon, un ouvrage de près de 1000 pages, très documenté sur Dijon, sur ses rues, ses monuments, ses personnages célèbres. Vous voyez, son œuvre est vraiment considérable.
Alors, Le Taux Dijon, c'était aux éditions Cléa en 2003. Oui. Est-ce que cet ouvrage est encore disponible?
Ah, ça, je ne sais pas. C'est un ouvrage, oui, que tout Dijonais, et puis en fait tout Bourguignon, se plaît à avoir dans sa bibliothèque.
En tout cas, on considère que Jean-François Bazin est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages. Vous avez mentionné Claude Chapuis, le dictionnaire universel du vin de Bourgogne. C'est aux éditions, aux presses du Belvédère. Hein. D'ailleurs, c'est un éditeur qui est installé dans le Doubs, à Pontarlier, et qui diffuse également dans la Suisse voisine. Oui. Est-ce que l'œuvre de Jean-François Bazin restera vraisemblablement?
Ah oui, absolument, oui. Et puis, alors moi j'aimerais terminer en évoquant mes souvenirs de Jean-François Bazin, parce que c'est un homme que j'admirais beaucoup. C'était à la fois un homme de lettres et un homme d'action. C'est quelqu'un qui s'est montré très généreux, très serviable vis-à-vis de moi. Et j'étais vraiment très touché parce qu'il concluait les lettres qu'il m'écrivait par ces mots « amitié durable ». Et ça, ce n'était pas une expression vaine. Alors je peux dire que la Bourgogne a perdu son chantre, son barde, et moi j'ai perdu un ami.
Merci Claude Chapuis de nous avoir livré votre témoignage et puis bien évidemment d'avoir participé à cet hommage à Jean-François Bazin. On a bien compris aussi que c'est avec émotion que vous lui avez rendu hommage en cette fin de matinée sur Radion.
Et je suis très content aussi que BSB, mon école, lui ait décerné son prix lors de Livre en Vigne au Claude Vougeot en 2018.
Encore merci, Claude Chapuis. Et vous, Claude Chapuis, alors, à quand un prochain ouvrage?
J'espère bientôt. Un roman.
Très bien. À suivre, donc.
À suivre.
Merci.
Merci
Claude
Chapuis.
Au revoir,
Yannick.
Au revoir, Claude Chapuis. Dernière virgule musicale dans votre wagon livre. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour conclure et pour vous annoncer le sommaire de l'émission de samedi prochain, 2 mai, toujours à 11h, sur votre radio locale.
Il y a comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière dans tout. Et la colère qui nous suit partout. y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment. On rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout. C'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue. Qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment. On rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Pas comme avant.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Ce numéro de Wagon Livre touche bientôt à sa fin. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet hommage rendu à Jean-François Bazin, journaliste, écrivain, grand connaisseur du vin de Bourgogne et ancien président du conseil régional de Bourgogne. Vous avez pu effectivement réentendre sa voix à travers la rediffusion d'extraits d'entretiens enregistrés avec lui, notamment au château du Clos de Vougeot. Mais sur le site internet de votre émission littéraire, www.yannickpetit.fr, vous pourrez réentendre dans son intégralité l'émission du 5 mars 2014 dans laquelle Jean-François Bazin évoquait son roman « Les compagnons du Grand Flot » aux éditions Kalman-Lévy. Et puis pour notre part, nous l'avions enregistré lors d'une conférence inaugurale qu'il avait prononcée à la salle gothique de Vézelay, à l'occasion du centenaire de la parution de Colabrenion, le célèbre roman de Romain Rolland. Alors c'était le 11 octobre 2019, cette conférence se trouve disponible dans son intégralité sur le site www.yannickpetit.fr à la date du 2 novembre 2019. Il ne me reste plus qu'à vous saluer. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h, samedi 2 mai, sur Radion. Nous aurons l'occasion de réentendre des écrivains de Bourgogne, notamment puisque nous vous proposerons une émission d'archives, étant donné qu'actuellement les conditions ne nous permettent pas de rencontrer des écrivains. Vous réentendrez Lucette Desvignes, le poète Bruno Doucet et Rémi Fauchereau qui nous parlera des phénomènes OVNI dans le ciel de Lyon. C'est samedi prochain, 2 mai à 11h. toujours sur Radion 90.5 dans le département de Lyon et puis aux quatre coins de la Bourgogne et de France via internet sur le www.radion.fr. Très bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Encore merci et à la semaine prochaine. Au revoir.